Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il n'arrivait déjà pas à s'entendre pour la gestion de la crise migratoire. Les 28 se sont déchirés hier soir sur la question du Brexit lors d'un dîner de travail à Salzbourg, en Autriche, Londres et Bruxelles. Se sont montrés chacune de leur côté inflexibles sur les modalités de divorce, sur la frontière en Irlande notamment, vous l'entendrez.
Theresa May, qui a même dû préciser qu'il n'y aurait pas de second référendum sur le Brexit, comme l'avait évoqué son secrétaire au Trésor.
La première ministre britannique tiraillée entre les partisans d'un Brexit dur et ceux qui ne veulent pas du tout entendre parler de Brexit. Nous serons en direct de Londres dans un instant. Avis de turbulence aujourd'hui à Dublin où Ryanair tient son assemblée générale après une année perturbée par des mouvements sociaux et des annulations massives de vols. Le patron de la compagnie aérienne à bas coût, Michael O'Leary, est sur la sellette. À la une en France, l'audition hier d'Alexandre Benalla par la commission d'enquête sénatoriale, ce qui n'est pas synonyme de fin de l'affaire Benalla, vous l'entendrez dans ce journal.
Et justement, on parle de l'affaire Benalla dans la question du jour, Catherine, mais du point de vue constitutionnel, le principe de séparation des pouvoirs est-il respecté? On posera la question à Bruno Daugeron, qui est professeur de droit public à l'Université de Paris-Descartes.
C'est à 27 que les dirigeants européens vont discuter du Brexit aujourd'hui à Salzbourg en Autriche sans Theresa May. La première ministre britannique a brièvement exposé sa position hier soir lors d'un dîner de travail et elle a demandé aux Européens de faire évoluer leur position pour parvenir enfin à un accord. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévue en mars prochain, mais les négociations achoppent toujours sur la question de la frontière en Irlande et sur le cadre de la coopération économique entre Londres et les 27. Hier, les deux partis se sont renvoyés la responsabilité des négociations qui patinent, Bertrand Galichet.
C'est une Theresa May très remontée qui a pris la parole hier soir au dîner des 28 à la Felsenreithschule, salle de spectacle emblématique de Salzbourg. La dirigeante britannique ne lâche rien sur la question qui bloque, celle du statut douanier de l'Irlande du Nord dans une Europe post-Brexit. Les Européens veulent une clause de sauvegarde qui permettrait à la province britannique, faute d'un meilleur accord, de rester dans l'union douanière. Proposition inacceptable qui risque de réduire en miettes le Royaume-Uni, s'indigne Theresa May, en demandant à ses homologues ce qu'ils feraient si on leur demandait une partition juridique de leur pays. Face à une Grande-Bretagne apparemment inflexible ou stratège, les 27 ont pris acte sans argumenter cette nuit. C'est aujourd'hui, lors du déjeuner et en l'absence de Theresa May, qu'ils discuteront entre eux des exigences britanniques avant de faire part de leur réaction commune. Pour l'instant, un seul point fait l'unanimité, l'urgence de la situation. À 6 mois du Brexit, il reste peu de temps pour trouver un compromis et seulement 2 rendez-vous programmés. Le prochain Conseil européen le 18 octobre, sans doute suivi d'un ultime sommet à la mi-novembre. Ce sera la dernière chance.
Bertrand Galichet, envoyé spécial de France Culture au sommet européen de Salzbourg en Autriche. Le Brexit, on l'entendait, source de tension entre les 28, source de dissension également au Royaume-Uni. Theresa May sous la pression des partisans d'un Brexit dur au sein de son propre camp conservateur. Les Tories qui tiennent un congrès à la fin du mois. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres pour France Culture. La première ministre britannique est donc tiraillée entre son aile droite au sein du parti conservateur, tiraillée avec de l'autre côté ceux qui, toujours au Royaume-Uni, ne veulent pas du tout sortir de l'Union, Antoine.
Oui, c'est le secrétaire d'État au Trésor qui le dit. Si l'accord négocié par Theresa May n'est pas intéressant, il y a un risque de deuxième référendum. Nous pourrions finir par rester au sein de l'Union européenne. Car le mouvement d'opposition au Brexit prend de l'ampleur. À gauche, une partie des travaillistes veulent que leur parti se positionne ouvertement contre la sortie de l'Union européenne. La question sera au cœur du congrès qui commence dimanche. À droite, c'est encore pire. Les conservateurs proches des milieux financiers considèrent que la sortie de l'Union va endommager l'économie britannique. Ils refusent de soutenir le projet d'accord commercial du gouvernement, pendant que les tenants d'un Brexit dur, eux, dénoncent un texte qui ne va pas assez loin. Ils plaident pour une sortie nette et franche du marché unique avec un retour aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. À l'image de David Davis, l'ex-ministre du Brexit annonce qu'il va présenter dans les jours qui viennent un plan alternatif avec, dit-il, une plus grande ambition. Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, lui, multiplie les provocations. Pour résumer les négociations, il compare le plan du gouvernement à une ceinture d'explosifs. Il faut, dit-il, jeter tout cela à la poubelle. Alors, difficile d'évaluer précisément le nombre de mécontents dans les rangs des députés conservateurs. Il serait entre 50 et 80, suffisamment nombreux en tout cas pour empêcher Theresa May d'avancer.
Antoine Gignot, merci pour ces explications en direct de Londres ce matin pour France Culture. Lui a invité le ministre des Transports britannique à se bouger pour éviter la paralysie du trafic aérien si Londres n'arrive pas à s'entendre avec Bruxelles sur le Brexit. Michael O'Leary, le patron de Ryanair, risque d'être dans une position inconfortable aujourd'hui alors que la compagnie aérienne irlandaise à bas coût tient son assemblée générale à Dublin après une année de turbulences, mouvements sociaux, annulations massives de vols. Un préavis de grève est toujours maintenu pour dans 8 jours dans 5 pays européens, au point que l'on s'interroge aujourd'hui sur l'avenir de Michael O'Leary aux commandes de la compagnie. Un patron qui en un quart de siècle a souvent exaspéré ses employés avec ses prises de parole excessives. Correspondance à Dublin de Julien Lagache.
Les médias seront tenus à l'écart de l'Assemblée Générale de Ryanair aujourd'hui. Une première pour la compagnie et son volubile patron, jamais avare de propos polémiques devant la presse. Un huis clos qui en dit peut-être long sur le climat au sein de l'entreprise après une année de secousses et de résultats en baisse qui fragilise Michael O'Leary, régulièrement dénoncé par les syndicats comme un obstacle au dialogue social. L'Irlandais de 57 ans, allergique aux syndicats, jurait encore il y a un an que l'enfer gèlerait avant que Ryanair n'en reconnaisse pour finalement le faire sous la menace de grève massive en décembre dernier. Offensif dans son management à traquer les coûts, Michael O'Leary est aussi dans le verbe, lui qui n'hésite pas à rudoyer ses propres employés, notamment les pilotes, très qualifiés mais au travail facile et très bien payés, avait-il dit en réponse à leur demande de meilleurs salaires et de conditions de travail. Peu consensuel, il ne cesse de brandir la menace d'un trafic aérien paralysé au Royaume-Uni si le Brexit se solde sans accord avec l'Europe, quitte à publiquement bousculer le ministre des Transports et l'inviter à se bouger. Un style qui jusqu'ici ne l'avait pas empêché de garder la confiance des actionnaires, dont certains commencent cependant à se montrer critiques. Reste à voir si cela suffira à les convaincre de remplacer l'actuel directeur général de la première compagnie européenne en nombre de voyageurs.
Elle a d'ores et déjà collecté 1 million de documents, des photos, des témoignages de centaines de personnes détenues et torturées dans les prisons syriennes. La juge française Catherine Marquis-Huel doit rendre aujourd'hui à Genève un deuxième rapport sur les crimes de guerre commis en Syrie dans le cadre d'une nouvelle instance onusienne créée l'an dernier, un mécanisme d'enquête impartial et indépendant dans l'éventualité encore lointaine de procès contre les responsables du régime syrien. Par ailleurs, toujours dans la guerre en Syrie, le chef d'état-major de l'armée de l'air israélienne doit emmener aujourd'hui une délégation à Moscou pour éclaircir les circonstances dans lesquelles un avion russe a été accidentellement abattu lundi soir par son allié syrien lors d'un raid israélien.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h07, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Le verrou de Bercy a-t-il totalement sauté?
L'Assemblée nationale en tout cas a voté à la quasi-unanimité hier la fin pour les plus gros fraudeurs fiscaux du monopole des poursuites jusque-là détenues par l'administration fiscale, par Bercy. Le montant de la fraude déclenchant cette transmission est fixé à 100 000 euros, un seuil critiqué par l'opposition et par des acteurs de la lutte contre la fraude fiscale. On y revient dans le journal de 7h30. Et pendant que les députés débattaient du verrou de Bercy, le Sénat, lui, était occupé hier par l'affaire Benalla. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron a été auditionné pendant 2h30 dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. Une audition qui ne met pas un terme à toute l'affaire Benalla, Antoine Marette.
Il y a l'enquête parlementaire qui ne s'achève pas avec l'audition d'hier. Le Sénat va continuer ses travaux pour tenter de comprendre s'il y a eu des dysfonctionnements dans le maintien de l'ordre lors de manifestations et dans la protection du chef de l'État. Après ces travaux, qui devraient durer 6 mois, la commission d'enquête de la Chambre haute va rendre un rapport, ce que n'est pas parvenu à faire l'Assemblée nationale. Les députés majoritairement marcheurs se sont déchirés autour de cette affaire Benalla. En ce qui concerne le volet judiciaire, Alexandre Benalla a été mis en examen le 21 juillet dernier, suite à la diffusion de la vidéo montrant des violences sur des manifestants le 1er mai dernier à Paris. Parmi les chefs d'accusation, violences en réunion, immixtion dans l'exercice de la fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique, mais aussi recel de détournement d'images issus d'un système de vidéoprotection. Il y a enfin l'enquête policière. L'IGPN, saisie à la demande de Gérard Collomb, va devoir déterminer les responsabilités dans la présence d'Alexandre Benalla en tenue de policier lors de la manifestation du 1er mai. 3 policiers sont également accusés d'avoir remis des images de vidéosurveillance à l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron.
L'affaire Benalla, le principe de séparation des pouvoirs est-il respecté? C'est la question du jour que vous poserez juste après ce journal, Guillaume Erner, à votre invité, le constitutionnaliste Bruno Daugeron. Nicolas Sarkozy sera-t-il jugé et quand pour le financement présumé illégal de sa campagne de 2012 lié aux fausses factures de la société Big Malion? L'ancien président de la République devrait savoir aujourd'hui si la Cour d'appel de Paris confirme ou non son renvoi devant le tribunal correctionnel. Améliorer la prise en charge des victimes du terrorisme, c'est l'une des annonces hier d'Emmanuel Macron à l'occasion d'une cérémonie annuelle en leur hommage. Pour mieux accompagner ces victimes, le président annonce notamment la création d'un centre national de ressources et de résilience qui sera situé dans un centre hospitalier. Emmanuel Macron qui a également annoncé la création d'un musée mémorial du terrorisme en France, Adèle Bossard.
La mesure qui satisfait le plus les associations de victimes, c'est la création de ce musée mémorial. Sophie Diaz est membre de l'association 13 novembre. Son père a été tué le soir du 13 novembre au Stade de France. Elle militait pour la création d'un tel lieu de recueillement.
Parce que c'est important de ne pas oublier. À chaque fois, il y en a un autre et on oublie petit à petit ce qui s'est passé, en l'occurrence pour le 13 novembre, mais aussi pour Nice et pour d'autres attentats. Donc c'est important. Et puis c'est important aussi pour la jeunesse aujourd'hui, qui comprennent que c'est pas normal si on continue à attaquer des gens dans la rue à Paris.
Elle salue aussi la création d'un centre national de ressources et de résilience qui sera basé au sein d'un CHU et qui permettra de traiter tous les types de traumatismes.
Oui, c'est une très bonne idée. Je pense que, en tout cas pour mon cas en particulier, ça vient un peu tard. Mais c'est clair que quand ça s'est produit, j'aurais aimé en effet avoir eu cette aide parce qu'on était vraiment largués et que personne nous a aidés et qu'aujourd'hui, grosso modo, on en est toujours au même point.
Et c'est sur l'accompagnement que se concentrent les crispations. Sophie Diaz attendait plutôt des mesures sur le fonds de garantie des victimes, le FGTI.
On a un FGTI qui est complètement muet, qui a des cases, comme la sécurité sociale. Dès lors qu'on ne rentre pas dans ces cases, il n'y a rien qui se passe en fait. Ça fait plus de 2 ans que le fonds de garantie ne nous envoie plus de courrier et est très désagréable avec nos avocats. Les belles paroles sont vraiment vaines.
Une annonce tout de même a été faite dans le sens d'une prise en charge mieux adaptée. Le président de la République veut aider financièrement les victimes françaises d'attentats à l'étranger. Des personnes pour lesquelles c'est souvent compliqué de se rendre au procès ou aux reconstitutions.
Un reportage signé Adèle Bossard. Le temps de ce jeudi 20 septembre, globalement ensoleillé, quelques nuages, voire des averses dans le nord-ouest et en Corse, au meilleur de la journée. Il fera entre 26 et 33 degrés du nord au sud. Un peu plus frais cet après-midi près de la Manche avec de 21 à 25 degrés, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutu.